en temps universel et à Dakar. L'heure d'un nouveau point sur la formation avec vous Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Paul, bonjour à tous.
Et à la une, l'équipe de France masculine qui réussit son entrée dans le mondial de foot.
Ce qui veut dire que les Sénégalais l'ont raté puisque les deux équipes s'affrontaient hier soir. Victoire des Français, 3-1, 4-1 pour la Norvège face à l'Irak qui espérait mieux pour son premier mondial depuis 40 ans. On y revient dans ce journal. On va parler aussi de cette idée de Donald Trump qui ne fait pas l'unanimité. Demander au gouvernement syrien de transition de lutter contre le Hezbollah au Liban. On va voir pourquoi cette divise. Les libertés de la presse et d'expression bafouées tous les jours au Mozambique. Nos révélations du jour dans le cadre de notre enquête Mozambique Exposed. Ça aussi, c'est dans ce journal. Et puis, on parlera de l'alerte de l'UNICEF. Plus d'un milliard d'enfants déjà exposés à au moins trois types d'aléas climatiques majeurs. Et l'histoire ne s'est donc pas répétée hier soir. En 2002, le Sénégal battait la France en ouverture de la Coupe du Monde masculine de football. Mais pas cette fois. Pour leur premier match dans cette édition 2026, ce sont bien les Français qui l'ont emporté. Victoire 3-1 au terme d'une rencontre disputée, surtout en première période, plutôt dominée par les Lions d'Ateranga. Mais les Bleus se sont réveillés après la mi-temps, 3-1, donc au coup de sifflet final, grâce notamment à un doublé du capitaine Kylian Mbappé, désormais meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Notre envoyé spécial Antoine Grenier était au MetLife Stadium dans l'ouest de New York où avait lieu le match. Reportage.
Alors que le MetLife Stadium se vide, les supporters français n'ont qu'un nom à la bouche.
Alors oui, Kylian, la Coupe du Monde, c'est toujours quelque chose qui galvanise. On l'a vu en 2018, en 2022 au Qatar.
En deuxième mi-temps, il a porté l'équipe. Quand le Sénégal revient au score et son premier ballon il touche, il marque de nulle part, on n'était même pas prêt, c'est extraordinaire.
Mbappé en mode doublé, après une première mi-temps pourtant poussive des Bleus, reconnaît William Saliba, le défenseur tricolore. Mais à la pause, le sélectionneur a su trouver les mots.
Il a dit qu'il fallait être plus calme avec la balle parce qu'on se précipitait beaucoup. Et on a bien joué, je pense, la deuxième mi-temps. Bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais voilà, c'est une grosse victoire. Et les choses, on va les corriger au fur et à mesure.
Une satisfaction qui contraste avec la frustration sénégalaise. Avec un peu plus de réussite en première période, les Lions pouvaient espérer mieux. Mais Pape Gueye, le milieu sénégalais, s'en contente.
Ouais, honnêtement, il y a un peu de regret parce que je pense qu'on a regardé cette équipe dans les yeux. On a proposé notre football. On va garder les bonnes choses. On va garder un peu ce qu'on a fait de moins bien. Et voilà, on est dans un tournoi. On a perdu le premier match, mais il reste deux autres matchs.
Le temps de l'analyse, des corrections et français comme sénégalais de retour sur les terrains dans moins d'une semaine. Antoine Grenier, New York, RFI.
Et la France, ce sera contre l'Irak et le Sénégal contre la Norvège. Deux adversaires qui se sont également affrontés hier soir pour leur entrée en lice. Et à la fin, c'est la Norvège qui gagne largement. Victoire 4-1 face à des Irakiens qui ratent leur retour en Coupe du Monde. Ça faisait 40 ans qu'ils n'y avaient pas joué. Alors forcément, un petit peu de déception pour leurs supporters dans les rues d'Erbil, dans le Kurdistan irakien. Reportage de Marie-Charles Troupy.
Dans le quartier d'Iskan à Erbil, les terrasses des cafés débordent. Les yeux rivés sur des centaines d'écrans, des dizaines et des dizaines de supporters irakiens découvrent leur équipe en Coupe du Monde.
Ça faisait 40 ans que l'Irak n'avait pas participé à la Coupe du Monde. Donc voir l'équipe en Coupe du Monde, ce n'est pas rien. Ça nous rend profondément heureux.
Et Samissa, lui, est arabe, mais la majorité des supporters présents ici sont kurdes. Et pour Hewa, la représentation de plusieurs ethnies et communautés irakiennes au sein de l'équipe nationale contribue à la joie des supporters.
Ça me rend très heureux parce que le football n'est pas le lieu pour faire des différences entre religion et ethnie. Et le football, c'est du plaisir. Il faut jouer comme des frères et en équipe.
Longtemps, les visages restent crispés, mais les yeux sont pleins d'espoir. Et à la 39e minute, l'Irak égalise et les supporters exultent. Mais la joie est de courte durée. Pour Manuel, les joueurs irakiens n'ont toutefois pas démérité.
Au début, nous étions très bons en première période, mais ensuite ils ont mis deux buts contre nous en deuxième mi-temps. Nous sommes tristes du résultat, nous méritions une égalité.
Avec un score de 4-1 pour la Norvège, l'ambiance est vite retombée à Erbil, mais les supporters comptent bien suivre le prochain match contre la France. Marie-Charles Troupy, Erbil RFI.
France-Irak, ce sera lundi prochain. Parmi les autres résultats de la soirée, la victoire des tenants du titre, les Argentins, qui ont battu l'Algérie 3-0 grâce à un triplé de Lionel Messi qui bat plus plusieurs records. Déjà, il devient le tout premier footballeur à disputer une 6e Coupe du Monde. Et puis, il s'offre en plus le luxe de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la compétition à égalité avec l'Allemand Miroslav Klose. 16 buts au compteur. Le premier tour de la phase de groupe se poursuit. Autriche-Jordanie. Et puis, un petit peu plus tard, le Portugal-RDC à 17h en temps universel. Suivi d'Angleterre-Croatie. Ça, ce sera à 20h. Je vous rappelle que vous retrouvez le calendrier complet ainsi que les résultats sur notre site RFI.fr. Au moins deux pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus américain imposé dans les ports du pays. C'est le site Tanker Trackers qui l'annonce et qui l'affirme. Ce sont là les premières exportations de pétrole brut depuis l'Iran en 2 mois. Hier, Téhéran avait affirmé que ce blocus américain n'était plus d'actualité grâce à l'accord de paix trouvé avec les États-Unis et qui doit encore être officiellement signé normalement vendredi. Et c'est fort de cet accord trouvé que Donald Trump a participé ces derniers jours au sommet du G7 à Evian dans les Alpes françaises. Ça s'achève aujourd'hui, même si le président américain participera ensuite à un dîner au château de Versailles. En tout cas, hier, il a relancé cette idée. La Syrie et son président par intérim, Ahmed El-Shara, pourraient agir contre le Hezbollah au Liban, en remplaçant en quelque sorte Israël, qui lutte depuis des années contre ce mouvement chiite pro-iranien. Mais l'idée, elle ne fait pas l'unanimité, Abla Junaidi.
Je suggère à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah, car pour être honnête avec vous, je pense qu'elle s'en chargera mieux. L'impatience de Donald Trump s'exprime en marge du G7 à Evian. Mais en quoi exactement doit consister l'action des autorités syriennes au Liban, selon Washington? Nul n'est capable de le dire. Ahmed Zidane, le conseiller du président intérimaire syrien interrogé sur la chaîne Al Arabiya, a démenti tout rôle militaire de son pays.
Comme vous le savez, le président Ahmed El-Shara a reçu dernièrement à Damas toutes les composantes de la société libanaise afin de faire passer ce message. Notre approche n'est pas militaire ni milicienne, elle consiste à soutenir le gouvernement libanais afin qu'il étende son contrôle sur l'ensemble du territoire libanais. Je pense que ces rencontres constituent une affirmation claire de la part de l'État syrien que l'ère des ingérences et des polarisations qui ont caractérisé la clique d'Al-Assad au cours des dernières décennies est révolue.
La Syrie a payé un lourd tribut à l'implication du Hezbollah en Syrie, rappelle le politicien. Une éventuelle intervention de Damas au Liban ferait peut-être les affaires de Washington, qui souhaite défaire l'influence de cet allié de l'Iran. Mais d'une part, la Syrie n'en a pas les moyens financiers ni militaires. D'autre part, le souvenir de l'occupation syrienne au Liban rend le sujet éminemment sensible, à l'heure où les deux voisins ont nombre de dossiers bilatéraux à gérer.
Le Liban touché par de nouvelles frappes israéliennes dans le sud du pays. Elles ont fait au moins 4 morts. L'armée iranienne menace d'une réponse sévère. En Ukraine, ce sont au moins 8 personnes qui ont perdu la vie après des frappes russes dans le sud et l'est du pays. Le tout alors que cette guerre était aussi discutée au sommet du G7 dont je parlais il y a quelques instants. Un G7 uni sur la question et qui promet d'intensifier la pression sur Moscou, notamment à travers de nouvelles sanctions. Autre sommet, lui, débute aujourd'hui au Ghana et va durer 3 jours. Un sommet international consacré aux réparations liées à l'esclavage et au colonialisme. L'idée, c'est de passer de la parole aux actes après le vote de l'Assemblée générale des Nations unies fin mars, un vote qui reconnaît l'esclavage comme étant le plus grave crime contre l'humanité. RFI, les 6h08 à Maputo, avant-dernier volet ce matin de notre enquête Mozambique Exposed dans le cadre d'un consortium de médias internationaux coordonné par Forbidden Stories. Et on revient aujourd'hui sur les libertés fondamentales bafouées quotidiennement dans le pays, celles de la presse et d'expression aussi. Au classement mondial de Reporters sans frontières, le Mozambique est 104e sur 180, considéré comme l'un des régimes les plus répressifs envers les journalistes. Violence, disparition forcée, assassinat, nos confrères mozambicains sont quotidiennement menacés, Gaël Lalex.
Depuis 2020, 4 journalistes mozambicains ont été tués ou sont portés disparus. Parmi eux, Albinou Sibia, abattu en décembre 2024 en direct sur les réseaux sociaux. Le blogueur de 31 ans couvre alors une manifestation de contestation des résultats des élections générales d'octobre. Albinou Sibia est tué de 2 balles dans le dos. Un an plus tôt, c'est le corps de Jean Chamoussé, rédacteur en chef du journal en ligne Punto a Punto, qui est retrouvé tuméfié à son domicile de Katembe, dans la banlieue de Maputo. Le journaliste faisait alors sensation à la télévision TV Sucesso avec ses éditos très satiriques à l'égard du pouvoir mozambicain. Nous avons connu beaucoup de restrictions ces 10 dernières années, mais la crise post-électorale, c'était du jamais vu, explique Luis Nachote, coordinateur du Centre pour le journalisme d'investigation du Mozambique. L'Institut des médias d'Afrique australe a déposé une plainte à Maputo contre la police pour usage abusif de la force contre la presse durant les manifestations. Des journalistes ont été entendus en février, mais depuis, plus rien, confie Slaide Mutemba, porte-parole de l'organisation au Mozambique. Gaël Alex, de retour de Maputo, Nairobi, RFI.
Et vous retrouvez tous nos précédents épisodes de l'enquête Mozambique Exposed sur RFI.fr. Ça a tout d'un film d'action, mais ce n'en est pas un. C'est l'histoire, tout ce qu'il y a de plus vrai, d'un jeune russe de 22 ans qui se retrouve aujourd'hui devant le tribunal administratif de Strasbourg. Un réfractaire à la circonscription militaire dans son pays qu'il n'avait pas le droit de quitter. À la conscription militaire, il l'a quitté, ce pays, pourtant, à bord d'un train reliant la Russie à son exclave de Kaliningrad. Un train dont il a sauté au moment de son passage en Lituanie, et c'est comme ça qu'il est entré dans l'Union européenne, sauf qu'il pourrait bien ne pas pouvoir y rester. C'est là tout l'enjeu de l'audience qui aura lieu aujourd'hui. Explication avec Marius Lafont.
Arrivé en France en voiture fin 2025, Daniil Mukhametov dépose une demande d'asile. Problème, il est recherché par la Lituanie, un autre pays de l'Union européenne. Vilnius le considère en effet comme un fugitif car il s'est évadé d'un train russe en transit par son territoire qui allait jusqu'à l'exclave russe de Kaliningrad. Martin Jouvin, l'avocat de Daniil Mukhametov.
Je pense qu'ils sont très gênés par le fait qu'un russe en espèce s'introduise comme ça sur le territoire, leur échappe. Et disparaissent. Ça a créé un peu un scandale politique en Lituanie.
Comme le jeune homme est entré dans l'Union européenne par la Lituanie, c'est ce pays qui doit examiner sa demande d'asile. C'est la règle dans l'Union européenne. La Lituanie fait donc une demande de transfert à la France et la préfecture à Strasbourg accepte. C'est cette décision que conteste Daniil Mukhametov devant le tribunal administratif. À cause de son statut de fugitif en Lituanie, il risque d'être expulsé vers la Russie.
Le service secret russe mettrait environ une seconde à comprendre qui il est une fois qu'il arrivera à l'aéroport. Évidemment, il arriverait des choses. Ça peut être détention arbitraire, torture, mauvais traitement, ça peut être une procédure pénale officielle, des choses très graves, ça on peut en être sûr.
Le juge français pourrait saisir une clause du droit européen pour ordonner que la demande d'asile de Daniil Mukhametov soit traitée en France et le protéger d'une expulsion vers la Russie, mais cette fois au risque de froisser très fort la diplomatie de la Lituanie où il est activement recherché.
La précision de Marius Lafont. Plus d'un milliard d'enfants sont déjà exposés à au moins trois types d'aléas climatiques majeurs. L'alerte est lancée par l'UNICEF. Dans un nouveau rapport, l'agence onusienne met ainsi en lumière la vulnérabilité plus ou moins grande des enfants en fonction de l'accès à certains services de base comme la santé, la nourriture, l'eau, l'éducation ou encore la protection. Juliette Pietraszewski.
Inondations côtières, tempêtes tropicales, incendies ou encore tempêtes de sable, près de la moitié des enfants dans le monde sont exposés à au moins trois risques climatiques. La sécheresse, la canicule ou encore la chaleur extrême qui comprend toute journée à plus de 35 degrés sont les risques les plus fréquents. Des risques qui se superposent, explique Jody Sauré, responsable plaidoyer et des programmes de l'UNICEF France.
On va avoir une situation de chaleur intense qui va déboucher sur une sécheresse, qui va déboucher sur une forme d'insécurité alimentaire. La sécheresse qui va aussi générer ensuite plus de risques d'incendie, qui vont générer plus de risques de pollution et avoir un impact sur les enfants et générer des maladies.
Les pays avec beaucoup d'enfants sont en tête de liste comme le Bangladesh, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan. Le Sahel est aussi considéré comme un point chaud par l'UNICEF. Au Tchad, par exemple, en pleine crise humanitaire, ce sont plus de 95% des enfants qui sont menacés par au moins trois aléas climatiques. Plus globalement, les pays déjà vulnérables sont les plus concernés. Jeudi soirée.
Les pays du Sud global sont généralement plus à risque. Cette fragilité va être exacerbée par le changement climatique. Il faut absolument que les pays les plus riches continuent de soutenir les pays en développement et les pays les moins avancés.
Le réchauffement climatique est donc un défi supplémentaire pour les pays dont les services essentiels sont déjà plus fragiles et dont les enfants sont par conséquent plus vulnérables.
Une précision de Juliette Pietraszewski. Merci d'écouter RFI 6h13 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans un gros quart d'heure. D'ici là, on est en Corée du Sud, où l'éducation nationale s'inspire d'une série télé. On va tenter de comprendre l'engouement. L'actrice française Élodie Bouchèze sera elle notre invitée culture ce matin. Elle est à l'affiche d'un film sur le handicap chez les enfants, ça sort aujourd'hui. Et puis, comment prendre soin de ses cheveux? Ce sera notre conseil santé du jour. Mais d'abord, on part en Allemagne, plus précisément dans le Land de Thuringe et plus précisément encore dans la ville d'Erfurt. C'est là que se tiendra le 4 juillet prochain le congrès national du parti d'extrême droite AfD. Alors que l'événement approche, les militants anti-extrême droite se mobilisent en tapant aux portes des 60 000 maisons d'Erfurt pour appeler à une grande manifestation le jour J et puis surtout pour mobiliser la majorité, souvent silencieuse, qui n'ose pas parler face à la montée de l'AfD. C'est un reportage de Delphine Herbollier. Thank you.
Allô.
Allô.
Hi.
Bonjour, vous habitez ici ? Nous sommes Lola et Michel et on vous propose un dialogue entre voisins.
Lola et Michel sont deux étudiants de 24 et 26 ans. Depuis 9 semaines, ils font du porte-à-porte tous les week-ends dans la ville d'Erfurt. Erfurt, capitale de la Thuringe, un des bastions du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, l'AFD. Dans ce pavillon d'un quartier cossu, vivent Alex et sa compagne Christine.
On est là pour le congrès de l'AFD. Est-ce que vous en avez entendu parler ?
problème de votre radio, c'est quand on écoute, et on est coupé. Et on l'entend très mal.
Bah, je sais pas, t'as qu'à acheter un autre poste si ça coupe.
Non, le poste est très bon. C'est vos émetteurs qui le sont pas.
Ah bah non, le poste est pas bon, parce que c'est pas l'émetteur qui doit faire que ton poste comprend, c'est le poste normalement qui doit comprendre.
Ah, écoute, avec certaines autres radios que la vôtre, ça marche très bien.
Bah, ça veut dire que ton poste comprend les autres radios, mais qu'il ne comprend pas celle-ci.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
Sa dangerosité, un si gentil garçon, ça n'était pas possible.
réussi ou s'est fait entrer l'accusé. Je me suis déjà senti seul sur un banc, observé et jugé par des passants alors que je maîtrisais le sujet. Quitte à en devenir un à étudier, j'ai pas peur d'être muté. Ça m'aidera pas à me conjuguer, je suis né muet. Rien à perdre, ça fait longtemps que je m'ai tué. Entre quatre murmures fissurés, il suffirait d'un sixième sens figuré pour être plus que suspect. Réussi ou s'est fait entrer l'accusé. Je me suis déjà senti seul sur un banc, observé et jugé par des passants alors que je maîtrisais le sujet. Quitte à en devenir un à étudier, j'ai pas peur d'être muté. Ça m'aidera pas à me conjuguer, je suis né muet. Rien à perdre, ça fait longtemps que je m'ai tué. Entre quatre murmures fissurées, il suffirait d'un sixième sens figuré pour être plus que suspect. Se coucher avec des envies de mettre des coups de coude là. J'ai dû retourner ma couette Coca-Cola. On a des haines liées à notre amour propre. Fonction aussi des proches, des potes, des profs, des propres devenus ordinaires avant de connaître des proches. Un bel été pour des tests, ça l'hiver. On m'interroge, je vous jure, j'ai pas violé la dame, je l'ai pas brûlé. Laissé pour morte dans la forêt, les oiseaux auraient hurlé. Ce que j'excuse le plus, le pétage de plomb total. Si j'en ricane, c'est que je kiffe vraiment l'odeur du gasoil. Non, j'en veux pas qu'à ma banque, mais à la société en général. L'âge de Mike me fait lécher mon sang, j'aime la ferraille. Ils sont juste modernisés, l'esclavage. Et s'étonne que la violence ait pris quelques cours d'escalade. D'après mes calculs, ça remonte à quand j'étais gnome. Ces balades accompagnées d'une lame plus longue que ma paume. Réussi ou s'est fait entrer l'accusé. Je me suis déjà senti seul sur un banc, observé et jugé par des passants alors que je maîtrisais le sujet. Quitte à en devenir un à étudier, j'ai pas peur d'être muté. Ça m'aidera pas à me conjuguer, je suis né muet. Rien à perdre, ça fait longtemps que je m'ai tué. Entre quatre murmures fissurées, il suffirait d'un sixième sens figuré pour être plus que suspect. Ça arrange pas tes affaires que je sois lucide. Que ce genre de grenade soit pas chargé en glucides. Ils nous liquident, nous servent du judiciaire. Ils ont eu Bill, ils kident. Moi je pense au crime que personne élucide. L'agent merderie, trop facile comme cible. Je préfère ceux qui déclarent la guerre avec une main sur la Bible. J'écris sur des feuilles de boucher. Dany le prince est sorti, j'aurais bien aimé l'embaucher. Tu me proposes un Jap, je pense jamais aux Japonais. Je veux faire payer ceux qui m'ont rabaissé quand j'apprenais. Ce plus profiter d'un instant de faiblesse. Tout est prévu pour les odeurs, je mettrai un coup de fébraise. Touché psychologiquement, tellement de moments frustrants. On pourrait en faire un Jean-Claude roman. Malheureux comme un petit caillou, tout près d'un carreau. Prochain featuring, peut-être avec un ténor du barreau. Réussi ou s'est fait entrer l'accusé. Je me suis déjà senti seul sur un banc, observé et jugé par des passants alors que je maîtrisais le sujet. Quitte à en devenir un à étudier, j'ai pas peur d'être muté. Ça m'aidera pas à me conjuguer, je suis né muet. Rien à perdre, ça fait longtemps que je m'ai tué. Entre quatre murmures fissurées, il suffirait d'un sixième sens figuré pour être plus que suspect.